La vision de l'avenir. Le Bouddha Shakyamuni n'avait jamais dit qu'il était le seul Bouddha. Alors que l'un de ses disciples faisait son éloge d'une façon extravagante, affirmant que personne n'était comme le Bouddha, celui-ci le réprimanda en soulignant que le disciple n'avait aucun moyen de vérifier que son affirmation était ou non exacte. « Au lieu de m'encenser, souligna le Bouddha, tu ferais mieux de mettre en pratique mon enseignement. » Shakyamuni souligna également que les Bouddhas font à plusieurs reprises apparition à différentes époques et à différents endroits de l'univers pour contribuer à l'éveil de ceux qui sont prêts à bénéficier de l'instruction spirituelle. Par exemple, au cours de l'ère actuelle, ou Kalpa, une période de temps excessivement longue mesurée en millions d'années, pas moins de 1000 Bouddhas sont destinés à faire apparition. Leur but est d'introduire le Dharma, ou comme on le dit habituellement, mettre en mouvement la roue du Dharma, là où l'enseignement n'a pas encore fait apparition ou là où son influence a décliné. En plus de ces 1000 Bouddhas fondateurs, d'innombrables autres hommes et femmes réaliseront la bouddhéité en appliquant le Dharma enseigné par les fondateurs. Et vous-même, si vous pratiquez de tout cœur, vous pourriez être l'un d'eux. Cependant, les Bouddhas qui font tourner la roue du Dharma sont ceux qui mettent le tout en branle. Actuellement, le Bouddha du présent Kalpa est encore Shakyamuni, car bien qu'il soit mort il y a 2500 ans, le Dharma qu'il a introduit existe encore et les gens continuent à en tirer profit. Selon certaines traditions bouddhiques, Shakyamuni serait le 4e des 1000 Bouddhas faisant tourner la roue du Dharma et il aurait prédit que l'un de ses disciples, Maitreya, serait le 5e.
Qui est le véritable Brahman? Si vous étiez né en Inde à l'époque du Bouddha, vous seriez automatiquement devenu membre de la caste de vos parents. Il y avait 5 grandes castes, celle des prêtres et enseignants, celle des rois et guerriers, celle des marchands et agriculteurs, celle des artisans et domestiques, et celle des intouchables ou parias. La mobilité sociale vers le haut n'existait pas. Dans cette société-là, c'était la naissance qui déterminait tout. Au sommet du lot, on trouvait les prêtres, ou brahmanes. Signe distinctif de leur haut rang, les prêtres portaient une décoration spéciale avec une boucle appelée le fil du brahman. Le détenteur d'un fil du brahman faisait automatiquement l'objet du plus grand respect. Le Bouddha lui-même n'était pas un brahman. En tant que prince Siddhartha, il était né dans la caste guerrière dirigeante, inférieure d'un cran à celle des brahmanes. Il enseigna que c'était le caractère moral d'un individu et non pas sa caste qui déterminait sa valeur. Le véritable brahman, c'est-à-dire la personne qui était la plus digne de respect, n'était donc pas celle qui portait une décoration particulière ou qui était née dans telle ou telle famille. Il l'exprima en ces termes. « Celui qui est tolérant envers l'intolérant, pacifique envers le violent, libre d'avidité, prononce des paroles qui sont calmes, utiles et vraies, et qui ne blessent personne. C'est lui que j'appelle un brahman. » Ces paroles démocratiques, qui paraissent équitables à nos oreilles modernes, étaient menaçantes pour le statu quo de son époque. 20 siècles plus tard, elles incitèrent de nombreux Indiens, y compris les soi-disant intouchables ou parias, qui se sentaient opprimés par le système des castes, à abandonner leur religion traditionnelle, l'hindouisme, pour adopter le bouddhisme.
N'oubliez pas. Le nom Maitreya vient du mot sanskrit Maitri, qui signifie bonté. Maitreya fut ainsi nommé car la bonté, c'est-à-dire le désir que les autres soient heureux, était sa principale pratique spirituelle. En Pali, l'autre langue indienne ancienne dans lequel les textes bouddhiques furent écrits, le terme qui désigne cette qualité rayonnante est « metta » et se traduit par « amour universel ». Selon certaines traditions bouddhiques, Maitreya était déjà arrivé au terme de son propre cheminement spirituel et il avait déjà atteint la bouddhéité bien avant qu'il n'arrive sur Terre comme l'un des principaux disciples de Shakyamuni. Mais alors, pourquoi un être ayant déjà atteint le but suprême de l'éveil jouerait-il donc le rôle d'un des disciples du Bouddha? L'explication qui est traditionnellement donnée est que Maitreya servait de modèle à émuler, car il démontra aux autres disciples de Shakyamuni comment un bodhisattva, plein de compassion, un être d'éveil, devrait se former sous la direction de son maître spirituel. Selon d'autres témoignages traditionnels, pourtant, Maitreya est un bodhisattva qui, par sa pratique assidue, découvrira finalement lui-même le dharma et deviendra un Bouddha. Aujourd'hui encore, Maitreya reste une source d'inspiration et d'espoir pour beaucoup des disciples de Shakyamuni. Ayant compris qu'ils ne seront peut-être pas en mesure de parcourir tout le chemin spirituel qui est le leur au cours de leur présente vie, ils prient pour renaître dans le premier cercle des disciples de Maitreya lorsque celui-ci réapparaîtra en tant que Bouddha, afin de pouvoir achever leur formation sous sa direction. Les croyances relatives au moment où Maitreya doit réapparaître sur Terre abondent. D'aucuns pensent que ce ne sera pas avant plusieurs milliers d'années, alors que d'autres affirment que ce n'est qu'une affaire de quelques centaines d'années. D'autres encore, qui partagent peut-être les espoirs associés au début du nouveau millénaire et à l'aube de l'ère du Verseau, croient pour leur part qu'il est déjà sur Terre et fera bientôt connaître sa présence. Écartant toutes ces spéculations, certaines sources bouddhistes traditionnelles avancent que Maitreya réside actuellement dans le royaume pur, appelé Tushita. Il restera dans cette petite gare cosmique, comme Shakyamuni le fit avant lui, jusqu'à ce que le moment propice arrive et qu'il descende au royaume des hommes pour y naître. Pour indiquer que ce Bouddha en attente est prêt à venir aider le monde, Maitreya est parfois représenté comme s'il était sur le point de se lever. Cela lui donne une place à part parmi les Bouddhas, dont la plupart sont montrés assis, les jambes croisées, dans la posture de méditation décrite au chapitre 7. Selon certains récits, l'ère de l'enseignement de Shakyamuni est à moitié terminée, et dans 2500 ans, le dharma qu'il a introduit disparaîtra complètement de cette planète. Alors que la décadence progressera, ou en d'autres termes, alors que la haine, l'avidité et l'ignorance prendront de plus en plus de force, le monde sera transformé en un champ de bataille. Les épidémies et les calamités naturelles deviendront de plus en plus graves et fréquentes, et les hommes mourront à cause du vieillissement alors qu'ils seront encore relativement jeunes. Lorsque les choses iront aussi mal qu'elles sont censées aller un jour et que les êtres humains seront freinés et déformés par leurs sentiments négatifs, alors Maitreya fera son entrée en scène. Bien que totalement réalisé, il ne renaîtra pas sous la forme d'un Bouddha dans un premier temps. Il se présentera simplement sous la forme de quelqu'un de plus grand et de plus beau que tout le monde. Impressionné par sa beauté, les hommes lui demanderont comment il se fait qu'il soit aussi beau. Il répondra « Par la pratique de la moralité, en évitant de nuire à tout être vivant. » Alors que de plus en plus de gens seront inspirés et deviendront adeptes de la moralité et de la bonté, l'âge de la dégénération arrivera à son terme. Le pacifisme remplacera l'agressivité, ce qui aura pour résultat d'accroître la durée de la vie des êtres humains, leur santé et leur bonheur, de manière générale. Finalement, lorsque toutes les conditions correctes seront réunies et que les disciples potentiels seront suffisamment mûrs pour être guidés, Maitreya réapparaîtra en glorieux Bouddha qui fera tourner la roue et marquera ainsi l'aube du prochain âge d'or du Dharma.